La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là au troisième jour de notre série consacrée à l'Homère du Transsibérien, l'écrivain suisse Blaise Cendrars, dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Casmarek et Anthony Thomasson. Il s'appelle Frédéric Louis Sauzer, on l'appellera Freddy, Fred ou parfois Fritz, mais lui se choisira une nouvelle identité et ce sera Blaise Cendrars. De sa mère fragile et de son père un peu velléitaire, il gardera des envies de fuite, de fugue, de départ vers l'Est et la Russie, mais aussi vers la Chine, les États-Unis et plus tard le Brésil. C'est donc une vie en mouvement qu'a été celle de Blaise Cendrars, de sa naissance en 1887 à sa mort en 1961. Comme nous l'a raconté Patrice Delbourg lundi dernier au cours d'une émission biographique, elle est comme toutes les autres disponible en podcast. Mardi, c'est Claude Leroy qui nous a parlé de la prose de Cendrars et de ses principaux romans, L'Or, Moravagine, Rome, pour n'en citer que quelques-uns. Il nous a également parlé de sa modernité, qui était loin de constituer une soumission à l'avant-garde. Enfin, demain, nous parlerons avec Philippe Forest d'une partie de l'œuvre autobiographique de Cendrars intitulée Le lotissement du ciel. Puis avec Myriam Boucharinck, nous reviendrons sur la partie journalistique de son œuvre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois Gisèle Bienne, romancière et essayiste. Elle a consacré deux livres à Cendrars, entièrement ou en partie. La ferme de Navarin, en 2008, dans la collection L'un et l'autre des éditions Gallimard. Et Les fous dans la mansarde, un récit publié en mars dernier chez Actes Sud, dans lequel elle traite de la Première Guerre mondiale à travers ses acteurs écrivains qu'ont été Blaise Cendrars, mais aussi Céline et bien d'autres. Et c'est donc beaucoup de ce moment de la vie de Cendrars, évidemment, que nous allons parler, mais également de son poème de 1913, La prose du Transsibérien. Voici d'ailleurs un extrait de ce poème.
Un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre. Et je partis, moi aussi, pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Karbin. Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la camelote allemande, made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant, je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Kunguz, les boxers de la Chine et les enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba et les 40 voleurs et les fidèles du terrible vieux de la montagne et surtout contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant.
Bonjour Gisèle Bienne.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
J'étais triste comme un enfant, écrit Blaise Cendrars dans la prose du Transsibérien qui était lu à l'instant par Jacques Sellé. Il est vrai qu'il n'est pas bien vieux en 1913, Cendrars, quand paraît ce poème. Il est dans sa vingtaine, il doit avoir 26 ans. Et ce n'est pas si loin finalement de ses voyages d'adolescence qui ont inspiré ce texte.
Ces voyages d'adolescence, en fait, c'est un voyage qu'il nous raconte. Le personnage en est Blaise, qui est un voyage commercial, je dirais, qu'il a fait, enfin, qu'il pourrait avoir fait quand il est apprenti et que Rogovin, son patron, veut vendre de la marchandise. Ils prennent donc, enfin, on suppose... C'est ça qui est magique, c'est parce que c'est tellement rêvé que c'en est encore plus vrai que si ça avait été vrai, je
crois.
Comme
toujours chez Sandra.
Et c'est ça qui entraîne à la lecture. Et donc, il est avec ce marchand, il fait ce voyage qui doit les mener à Carbine.
C'est le titre exact, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France.
Oui.
Oui. Alors oui. Ça, c'est pas le voyage commercial, la petite Jeanne de France.
La petite Jeanne de France se trouve être à côté de lui. Elle vient de Montmartre. Bon, alors évidemment, c'est le quartier que Blaise adore. Le lapin agile, bon, tous les copains qu'il peut y avoir, les artistes, les peintres. Mais la petite Jeanne de France, comme souvent chez Sandra, est un personnage double. C'est à la fois une pauvre petite prostituée, nue, maigre, si pauvre que son corps ne peut pas lui appartenir, et à la fois une sainte. Et dans finalement le poème, le lisant, le relisant, j'ai l'impression que c'est aussi une partie de l'âme de Sandra, très mystique. Mmh. Il y a toujours quelqu'un à sauver, à protéger, à accompagner dans une sorte de tendre misère.
C'est d'ailleurs ce livre qui vous accompagne depuis que vous l'avez découvert.
Vous voyez, j'ai apporté l'exemplaire de ma jeunesse. J'étais à Nancy étudiante, dans une petite chambre, une piole. Sandra aurait dit une turne. Et je ne suis pas une très bonne étudiante, il n'est pas un très bon poète, dit-il. Il l'est. Mais moi, je ne suis pas une très bonne étudiante et au lieu d'étudier Ronsard, j'ai dégoté un livre... chez un bouquiniste derrière la place Stanislas à Nancy. Je le rapporte dans ma chambre en cité universitaire, je l'ouvre. Et tout de suite, je vais à la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Bon, il y a des raisons. Le Transsibérien, ça reste un mythe. Et je passais toutes mes vacances étant petite fille dans les gares de mon grand-père qui était chef de gare. Et je voyais passer les trains qui ne s'arrêtaient jamais ou dans lesquels je ne montais jamais, la nuit, les petites fenêtres allumées qui se perdaient dans la plaine. La journée, je restais seule sur le quai. Et vraiment, les gares ont pour moi eu une grande importance. Si bien que l'effet du titre lui-même, déjà, a beaucoup joué.
C'est une édition NRF.
Oui. Et oui, elle était toute jeune, cette collection Poésie Gallimard.
Vous l'avez soigneusement recouvert de papier transparent.
Depuis...
Mais ça n'est pas une édition avec le dessin de Sonia Delaunay, c'est-à-dire le dessin original qui a fait tant de bruit
Si je la possédais, ce serait une richesse inouïe. Mais j'en possède une réplique, imaginez-vous. Je crois que ce sont les éditions Flammarion, la librairie de Beaubourg, qui un jour, il n'y a pas tant d'années que ça, a refait une magnifique réplique. J'étais dans cette librairie tout à fait par hasard, quand ça m'a sauté aux yeux, et c'était le dernier exemplaire, qui n'est pas sans valeur aujourd'hui, et qui est évidemment la reproduction exacte, à tirage limité, qui me fait rêver, et qui figure sur la porte de ma salle de séjour.
Parce qu'on ne peut pas parler de la prose du Transsibérien sans parler de ce livre-objet, qui était...
Un livre d'artiste magnifique.
Oui.
Qu'ils ont, enfin, je pense, il l'a écrit en 1913, d'après ce qu'il dit, il l'a dédié aux musiciens. Bon, il venait d'écrire sur Rimsky-Korsakov, la musique tzigane lui plaisait beaucoup, il aimait les chansons des rues, enfin bon, il aimait les vagabonds, il aimait les musiciens, il aimait tout ce monde. Et c'est vrai que la prose est pleine de rythmes ensorcelants, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la musique de la prose, il y a le travail du style qui se mêle au bruit du train. Enfin, c'est complètement extraordinaire. Et il a rencontré les Delaunay grâce à Apollinaire. Il s'entendait très très bien avec les Delaunay. Et Sonia, qui était russe, d'origine russe, était effectivement la bienvenue pour l'illustrer et a fait quelque chose de magnifique.
Alors, on va écouter justement Sonia Delaunay qui raconte sa rencontre avec Sandra, justement chez Apollinaire.
C'était les mercredis, on était chez lui. Il nous a présenté un petit jeune homme assez insignifiant physiquement, et qui était Sandra. Apollinaire était très, comment dire, très décoratif. Il était grand, il était imposant, et il dominait. Mais les autres, et surtout Sandra, qui était beaucoup plus petit et très jeune, il était un petit jeune homme pour nous. Le lendemain, il est venu nous voir, il a apporté Pâques. C'était toujours moi qui me jetais sur les livres, et j'ai dit à Delaunay, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée tout de suite acheter Rue Dauphine, une peau de daim. J'ai fait une reliure avec des collages. Et maintenant, c'est au musée d'art moderne. Et depuis ce jour-là, Sandra, qui habitait à côté, rue de Savoie, il venait presque tous les jours déjeuner chez nous. Et il était très pauvre. Mais un jour, il nous a annoncé qu'il a hérité 3000 francs d'une tante. Et il a apporté un poème qui s'appelait « Le Transsibérien ». Il a dit « Je vais l'éditer ».
C'est donc un poème tableau.
Oui.
À quoi ressemble-t-il ?
Alors, normalement, on doit le lire dans la verticalité.
Il est très haut.
Très haut, oui, très haut.
Ça fait 2 mètres de haut.
Oui, voilà. Il se déplie un peu à la façon de souffler d'un accordéon. Et il devait le tirer à 150 exemplaires. Et vu la dimension lui-même du poème tableau, on devait atteindre la hauteur de la tour Eiffel.
Qui fait 300 mètres.
Voilà. Et évidemment, nous avons le texte de Sandrard sur la gauche et à droite les illustrations, si on peut dire illustrations, les œuvres de Sonia Delaunay au pochoir, qui sont très belles, et ça finit par la tour Eiffel.
Parce que la tour Eiffel nous fait penser à Apollinaire,
oui.
Mais pour Sandrard, ça veut dire quelque chose aussi. Ses parents l'avaient amené oui. en 1900 à l'exposition universelle et il avait vu la tour Eiffel à cette époque-là.
La question du transsibérien, du voyage qu'il nous offre dans la prose, à mon avis, vous touchez là un point important. Mon grand-père y était aussi. Le père de mon père avait le même âge que Sandrard, et c'était une exposition en 1900, et il y avait le transsibérien, le beau transsibérien luxueux qui venait d'être construit. 4 voitures étaient au pied de la tour Eiffel qu'on pouvait visiter, et il l'a visité avec son père, en particulier la voiture salon. Alors c'était magnifique, des tables en onyx, en marbre, il y avait les trésors de la Sibérie. Puis vous savez, il y avait de ces écrans magiques sur lesquels défilaient des paysages, le Baïkal, les forêts, les richesses de la Sibérie, les fourrures, les pierres précieuses. Et puis, il arrive à Pékin, et là, un Chinois lui offre du thé. Et il est complètement émerveillé. Et je crois que, pour mon grand-père aussi, mon père me le disait, c'est plus fort qu'un voyage réel. Ça a commencé sûrement là, le grand rêve du transsibérien.
Mmh. Et Apollinaire alors, parce que c'est donc chez Apollinaire que les Delaunay et Sandrard se sont rencontrés. Mais entre Apollinaire et Sandrard, il y a une forme d'amitié, mais qui est aussi une forme de rivalité sur la poésie d'un certain avant-garde. Comment ça se passait entre eux ?
C'était assez difficile parce que, en fait, quand il est rentré de New York, il a écrit Sandrard, pas qu'à New York, mais bon, il dit qu'il les a écrits à New York, mais il est plus probable qu'il les a écrits en rentrant et qu'il les a fait parvenir à Apollinaire, qui les a lus, mais qui n'a pas répondu. Alors que c'est un poème magnifique. Et ça a été quand même assez dur. Et les Sandrardiens, bon, moi je ne suis pas chercheuse, hein, je ne suis pas une chercheuse, je suis une lectrice, pense que Apollinaire s'en est quand même un peu inspiré pour Zone. Enfin, ça a été très compliqué entre eux toujours.
Et puis, il y a quand même le parallélisme de la blessure pendant la Première Guerre mondiale.
Là, vous savez que ils ont participé à l'offensive de Champagne en 1915, tous les deux, pratiquement à quelques 15-20 kilomètres de distance. Vous aviez Apollinaire qui était artilleur, qui gardait la route de Tahure ou la butte de Soings. Et quelques kilomètres plus loin, en allant vers l'Aisne, la Somme, tout ça, vous avez la ferme de Navarin, vous avez Suippes, et là, vous avez Sandrart avec plus que son escouade de la Légion. Donc ils ont participé à la même grande offensive de septembre 15 et dans la Marne.
Juste avant la mort d'Apollinaire, si je ne me trompe, Sandrart va aller chez lui.
Oui.
Ou peut-être même le jour de la mort d'Apollinaire.
Le matin, paraît-il, il passe. Il sait qu'Apollinaire a la grippe espagnole. Bon, il faut dire qu'Apollinaire n'est pas seulement mort de la grippe espagnole. Les gaz. Il souffrait beaucoup du fait d'avoir respiré des gaz. Mmh. Il avait des bronchites, il avait des rhumes. Il était extrêmement affaibli, les poumons. Donc, ça se prêtait aussi forcément à une fragilité très grande. Et Sandrart, et ça, je le crois, parce que Sandrart est généreux, il veut sauver tout le monde et il sent les corps, il est médecin quelque part, il est médium, voulait le sauver avec un remède miracle, ça c'est Sandrart, son huile de Harlem, enfin bon.
Il n'a pas prise, cette huile de Harlem.
Non, et quand il est arrivé pour lui remettre un exemplaire de J'ai tué, c'était trop tard.
Nous étions en 1912 à Paris, l'époque de Montparnasse battait son plein. Vous, le chef de file des poètes, capable d'éblouir même Apollinaire, vous rencontrez alors vos contemporains. Ils sont tous vos amis, peintres ou écrivains, Cocteau, les surréalistes, Fernand Léger, Delaunay, Modigliani, Picasso. La belle époque, n'est-ce pas?
C'était la même époque, avec la même connerie. L'argent, aussi bêtement distribué qu'il l'est aujourd'hui. Et voilà.
1914, c'est alors, comme vous l'avez dit dans l'une ou l'autre de vos chroniques fabuleuses, que la guerre est déclarée. Vous écrivez une lettre ouverte qui va décider un nombre considérable d'étrangers à s'engager comme vous dans la Légion étrangère pour défendre le pays. Votre conduite héroïque dans les commandos vous coûte un bras, le bras droit. Vous êtes depuis l'homme à la main coupée, ou bien, selon Raymond, l'auteur du Panama au XXe siècle, Blaise Sandrart dit le Baudelaire du siècle, dit sans bras, parce qu'il en avait laissé un à la guerre. Cette guerre reste-t-elle pour vous un mauvais souvenir ?
Très bon souvenir, la guerre m'a sauvé la vie. Ça a l'air d'un paradoxe, mais 100 fois je me suis dit depuis que si j'avais continué à vivre avec tous ces gens-là, que j'aurais craqué.
La guerre m'a sauvé la vie, dit Sandrart dans cet entretien avec Robert-Jean Vidal, Gisèle Bienne. À quoi cela vous fait-il penser?
C'est très compliqué cette histoire. On a entendu là, dans cet très émouvant extrait, qu'il a lancé un appel aux étrangers en juillet 14 avec Canudo, le poète, il travaille avec lui, pour qu'il s'engage afin de sauver la grande France, le beau Paris, le Paris des arts. Enfin, c'est quelque chose, un texte où il y a une exaltation absolument incroyable de la France.
Il dit que toute hésitation serait un crime.
Mais vous savez, ça n'a pas été si simple. Je ne sais pas, il faut lire comment les Français sont entrés dans la guerre de Jacques Becker. Il faut très lire le gros livre que Myriam Sandrart a consacré à son père. Ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite. D'abord, en 1913, Sandrart, qui travaillait avec les artistes de la revue Der Sturm en Allemagne, a signé un manifeste. Plusieurs artistes pacifistes européens l'ont signé contre la guerre. Et Sandrart, vous savez, il est toujours double, l'a signé deux fois sous un autre nom. Donc, à ce moment-là, la guerre, ça ne lui disait rien. Ce qui lui disait, c'était de vivre à Paris, libre, Paris, ça, il adorait. Et puis, la guerre arrive. Ils sont étrangers, Fela et lui. Ils vivent dans une petite maison, enfin un petit village près de Fontainebleau.
On les
considère comme des espions. On lance des cailloux dans leurs volets. Les commerçants ne veulent plus les servir. Les gendarmes frappent à la porte. Il existe le carnet B. Le carnet B, il est sur les tables de tous les préfets en France. Il émane du gouvernement de la République et porte 2 à 3 000 noms de personnes, artistes, notables aussi, élus, socialistes, pacifistes, qui pourraient s'opposer à la mobilisation générale. On peut penser qu'il y ait. Les gendarmes se présentent en général chez ces gens-là plusieurs fois pour leur faire peur.
Donc vous pensez qu'il s'est engagé, non pas, parce qu'il n'y était pas obligé en effet, il était suisse.
Il n'était pas obligé, il ne voulait plus vivre en Suisse de toute façon, c'était quand même impossible pour lui de retourner en Suisse. Mais ils étaient dans une situation très difficile, ils risquaient la déportation, se retrouver au camp de la Courtine, en s'engageant évidemment, mais il y avait chez lui aussi une violence terrible.
Donc il y a aussi quelque chose de personnel qui tient à cette rage qu'il porte en lui,
cette
et qui le pousse à aller au front.
Qui lui fait dire que finalement, la guerre lui va comme un gant. Vous voyez, c'est toujours ça, Sandra. C'est toujours plusieurs choses à la fois.
Et en même temps, quand il se bat, il ne se bat pas à moitié.
Non.
Et d'ailleurs, la ferme de Navarin, votre livre le raconte, on va peut-être s'y attarder. C'est un héros, en réalité, Sandrard.
Ah, mais Sandrard, il ne comprend pas comment Apollinaire a pu écrire de si jolis poèmes la nuit dans les tranchées. Il n'a pas écrit que de si jolis poèmes sur la guerre, Apollinaire. Il en a écrit d'assez atroces. Lui, il ne fera pas la guerre avec un porte-plume, Sandrard, mais avec un fusil.
Alors c'est ce que vous racontez dans votre livre, car vous êtes allé à la ferme de Navarin. La ferme de Navarin, c'est le lieu dit où des milliers peut-être de soldats ont été tués.
L'offensive de Champagne se déroulait sur un front de 40 km, donc à chaque fois il y avait des points forts à prendre. Donc lui, il avait d'abord été soldat dans la Somme, donc il en parle beaucoup aussi dans La main coupée. La main coupée, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le grand livre. Bon, on a chacun notre grand livre de Sandra. Ce sera Mon ravagine ou Lotissement du ciel pour demain.
Mais là, c'est en partie... c'est une partie de l'œuvre autobiographique de Sandra.
Oui, de ses mémoires qu'il appelle être des mémoires sans être des mémoires. Et... il a donc combattu pendant un an dans la Somme. Ensuite, il a fait un stage dans les Vosges, au sujet duquel nous ne savons presque rien. Un stage d'entraînement, un stage d'excursion, etc. Puis, Poincaré les a passés en revue. Il faut vaincre, il faut se battre, il faut ajouter une page d'histoire, aux belles pages d'histoire. Et là, il est prêt à tout. Seulement, ils ne savent pas trop, vers où on les conduit. Ils sont dans les Vosges, ils prennent un train, ils sont dans des wagons à bestiaux et ils roulent. Pendant un certain temps, ils peuvent croire qu'ils roulent vers Paris et qu'ils vont avoir quelques jours de permission. On ne leur a rien dit, on ne disait rien sur le lieu d'affectation. Mais Sandra, vous savez, c'est un redoutable observateur. Il voit les trains monter vers le front, redescendre, monter à plein, descendre à vide. Il voit qu'on a dissimulé les directions, etc. Tout. Et il comprend qu'ils vont quelque part vers l'est. Et quand ils arrivent en Champagne, ils ne savent pas où ils sont.
Et donc ils sont sur le lieu d'une offensive qui doit être l'offensive décisive.
Première des grandes offensives. Il y en a une en mars, là, mais c'est la première des grandes offensives décidées par Joffre. On leur a demandé de faire en sorte qu'on puisse enfin percer le front, arriver jusqu'à Sedan, rejeter les Allemands par-delà la frontière et après les faire passer le Rhin. Donc ils sont chargés d'une mission. Et il va se retrouver avec des desperados, c'est terrible, il va se retrouver avec les blédards d'Afrique, il hésite, puis il accepte, et puis avec la célèbre division du Maroc, qui s'est fait remarquer à Vimy au printemps d'avant, où il n'était pas, mais où il ne cesse de dire dans la main coupée qu'il y était, parce que là, ils ont percé le front en vain.
On peut raconter du coup comment se passe cette offensive que vous racontez d'ailleurs comme si vous y étiez. Vous faites un effort de description qui rend extrêmement naturel ce moment qui est un moment d'histoire.
Oui.
Mais on a le sentiment que vous vous êtes mentalement, totalement projeté dans cette bataille qui a lieu aux alentours de 19h.
Alors, vous comprenez, ils sont très désorientés parce qu'ils arrivent. Les soldats ne comprenaient pas. Ils arrivaient de toute la France, ils ne comprenaient pas où ils étaient. La Champagne Pouilleuse, c'est quand même un paysage très austère, aride. Sandrard arrive, regarde autour de lui, et c'est un désert. La plaine est un désert. Le soleil pend sur la plaine, des petits bois rabougris, des petits champs rectangulaires, un paysage, dit-il, sec, découpé comme un chardon. Le mot désolation est sur toutes les lèvres, beaucoup de morts le long des routes, des petites tombes aménagées en vitesse avec des drapeaux. Et vraiment, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il n'y a aucun repère.
On n'y voit rien.
Non.
Et parallèlement, une rumeur va aggraver la situation.
Oui.
La rumeur que les Français ont engagé une bataille victorieuse un peu plus loin.
Et c'est faux. Paul Valéry attend. Il pense que cette fois-ci, on va gagner. Et puis, c'était une rumeur fausse. Donc, Sandrard, avec son escouade, avec ses légionnaires, il est caporal, il est responsable d'eux, se sent vraiment responsable d'eux, doit se diriger vers la tranchée de la culture. Il y a eu un pilonnage de 3 jours avant, intensif, terrifiant, à tel point que des Allemands sont devenus fous. Et la première ligne allemande a l'air de céder. Mais ce n'est malheureusement qu'un piège. Ils ont la réserve Stellung, une fortification par derrière, terrifiante, hein, des mitrailleuses, des barbelés imprenables. Et les légionnaires, se jettent à corps perdu dans la bataille sous les mitrailleuses. Il pleut. La terre est détrempée. On est en septembre, le 28 septembre. Sandrard, c'est son 4e jour d'offensive. Il a déjà perdu de nombreux compagnons. Il y a le petit Faval qui est derrière lui, qui ne le quitte pas, qui a peur, qui a eu le pressentiment de sa mort, qui meurt en s'affalant sur lui, dit-il. Et ils arrivent pratiquement face aux mitrailleuses, quoi. Et les avions repèrent mal, les caisses de munitions sont humides, les réserves sont abîmées. Enfin, c'est vraiment terrible. Et une balle de mitrailleuse l'atteint au bras droit.
Et
mais il continue à courir. Il s'expose, il se surexpose, il continue.
Et non seulement il continue, mais il doit faire quelque chose de cette main qui est maintenant détachée en partie de son bras. Et là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a plusieurs versions, celle de Claude Leroy. Je ne sais pas si vous êtes également sur la même version, mais il semblerait qu'il soit demande à quelqu'un de lui arracher cette main, soit qu'il sorte un couteau pour la sectionner.
Alors justement, j'ai essayé... Je me suis interrogée sur ce moment. Je connais l'endroit où on ramenait les blessés. Maintenant, c'est un cimetière de l'Opéra. C'était une espèce de place forte où on donnait les tout premiers soins. On n'opérait pas. On opérait dans des cimetières de l'arrière. Et puis après, il est allé à Chalon-sur-Marne. On en parlera parce que c'est très compliqué, les étapes. Et en réalité, il s'est retrouvé au cimetière de l'Opéra. Il aurait reçu les premiers soins du peintre Alexandre Zinoviev. Et quand son beau livre, La main coupée, est paru, un ancien lui a écrit. Et c'est pourquoi je l'ai mis en exergue de la ferme de Navarin. Et voici l'extrait de la lettre. Et nous nous sommes vus la dernière fois, alors que blessés tous les deux, nous cherchions le poste de secours. Vous, avec votre bras pendant que vous vouliez que j'achève de couper. Je serai très heureux d'apprendre que vous vous rappelez encore de ces moments et de celui qui se considérait comme votre ami. Lettre de Robert Delors à Blaise Sandrard, datée du 19 mars 1952. Je ne pense pas qu'on lui ait coupé la main à ce moment-là ou qu'il ait arraché sa main à ce moment-là. Il a été transporté dans un hôpital de l'arrière, une sorte à Suippes probablement, où là, on l'a amputé de la main.
Gisèle Bienne, on va continuer de raconter avec vous cette histoire de Blaise Sandrard pendant la guerre, mais tout de suite, c'est le moment d'En Compagnie des Revues.
La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En Compagnie des Revues avec vous aujourd'hui, Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Un mot peut-être sur ce qui a été dit par Gisèle Bienne durant la première partie de cette émission et puis aussi sur la prose du Transsibérien, peut-être.
Qui est oui, je commencerai par là, préférés. D'ailleurs, parce que ça a été un des grands moments de ma vie lycéenne. Je me revois encore commenter ce poème devant ma classe, avec l'aide d'un professeur qui s'appelait M. Beugnon. Je ne sais pas s'il écoute l'émission, mais en tout cas, je le salue amicalement.
Sans doute que oui.
Et je ne l'ai guère rouvert depuis, ce poème, et je l'ai entendu tout à l'heure résonner... Comme au premier jour, et je vais me précipiter pour le relire en entier. Je suis estomaqué par la beauté de ce texte, en fait. Je ne connais pas bien, par ailleurs, Sandrard. Pour moi, Sandrard, c'est la prose du Transsibérien, mais je vais rattraper mon retard.
Donc vous saviez tout ça sur le passage très terrible, finalement, de Sandrard pendant la... Première Guerre mondiale, la perte de sa main.
Je ne connaissais pas bien tout ça. Je pensais à Peggy en vous écoutant, parce que Peggy fait aussi partie de cette histoire. Mais pour Peggy, les choses ont été plus radicales, puisqu'il a été tué du premier coup. Non, je n'avais pas bien mesuré l'importance de la guerre. Et je pense que... C'est pas une excuse que je vais me donner, mais je me demande si Sandrard n'est pas un peu victime d'un mythe Sandrard, d'aventurier, qui empêche de le lire pour ce qu'il est véritablement.
Gisèle Bienne.
Eh ben, je suis entièrement d'accord avec Michel Crépu, parce que moi, quand je connaissais pas Sandrard, c'était la légende qu'il avait emportée sur la réalité, et ça m'a empêché pendant un certain temps presque d'aller vraiment vers l'immense auteur qu'il est. Et cette légende, il y a peut-être contribué, mais beaucoup de gens y ont contribué un peu facilement sans connaître l'œuvre non plus.
Alors le Transsibérien, la NRF le prend, hein, si l'on peut dire, puisque sur la une de votre revue, on peut voir Lénine dans une posture très réalisme socialiste. Et c'est aussi Lénine qui est l'objet de votre édito, Michel.
Oui, alors c'est aussi là, bien sûr, l'occasion de réfléchir à un rendez-vous que nous donne l'histoire et de se demander un petit peu quel est le sens de cette révolution d'octobre qui a été un mythe, enfin pas seulement un mythe, un événement, mais qui est devenu aussi un mythe. Et donc c'était évidemment l'occasion aussi pour moi de donner à lire des pages de Solzhenitsyn, du dernier volume de La Roue Rouge qui paraît ces jours-ci chez Fayard, qui est un énorme voyage littéraire, scripturaire, et on retrouve évidemment toute cette affaire là dans la sphère littéraire, dans la sphère du roman. On n'insiste pas assez sur le fait que Solzhenitsyn n'est pas un historien du communisme, mais un romancier. Enfin, c'est très très important.
Et puis sur le blog de la NRF, vous rendez hommage à celui que vous avez bien connu, Roger Grenier, qui a disparu il y a quelques jours.
Oui, Roger Grenier est mort la semaine dernière, à 98 ans. C'était la mémoire de Gallimard. Il avait connu Camus, il avait travaillé avec lui et une infinité d'autres écrivains. J'aimais infiniment cet homme, qui était un écrivain merveilleux. J'espère qu'on le redécouvrira.
En tant qu'écrivain.
En tant qu'écrivain.
Parce que c'est vrai que du coup, comme il a connu tout le monde, interrogé tout le monde.
Oui, il était
devenu presque
effacé,
un journaliste littéraire,
un merveilleux Tchekhov à la française. Il a d'ailleurs écrit un essai sur Tchekhov merveilleux. Et il a aussi écrit, que j'ai relu pour l'occasion, un essai formidable sur Pascal Piat, que tout le monde a oublié aujourd'hui.
Il a rencontré Sandra, puisque vous en parlez, Gisèle Bienne, dans votre
livre.
Alors,
j'ai eu des contacts réguliers avec Roger Grenier, que j'estimais infiniment, et qui, voilà, nous avions souvent des échanges. D'ailleurs, mes remerciements vont à Roger Grenier pour sa lecture et les échanges qu'elle a suscités. Tout à l'heure, nous parlions de l'offensive. Il y en a eu une en mars et c'est là qu'il y a eu les fusillés de soin. Et il m'a envoyé l'original du journal où était paru le fusillé de la veuve de Maupas, fusillé. Me l'a envoyé. Et il a été pour ce livre en particulier une sorte de compagnon de route.
Merci Michel.
C'est moi.
Et donc rendez-vous en librairie pour le numéro de novembre de la NRF et également sur le site internet lanrf.fr. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous poursuivons notre exploration de la vie et de l'œuvre de Blaise Sandrard avec ce moment fondateur qui a été pour lui la Première Guerre mondiale, où il perdra, nous l'avons dit, une partie de son bras, un moment qui est au cœur du livre de Gisèle Bienne, La ferme de Navarin, mon invité d'aujourd'hui.
J'ai dû m'agiter sur mon brancard, gesticuler. Gesticuler non seulement de ce bras gauche, dont je ne savais pas encore me servir, mais brandir aussi cette main droite, cette main que je venais de perdre, qu'on venait de me ravir en Champagne, que j'avais laissée derrière moi dans le charnier de Sompi, et dont l'étonnante présence se révélait, se manifestait, se faisait sentir dans les douleurs exorbitantes qui poussaient de mon moignon, grandissaient, se ramifiaient, me tiraillaient en tous sens, me faisaient me tordre, comme si j'avais été consumé dans un brasier intérieur, se généralisait, mais restait néanmoins très précise, tout en se multipliant, comme si l'on m'avait coupé, non pas un bras sur deux avec un bistouri, mais avec une scie circulaire, comme à Bouddha, un éventail de bras sans cesse renaissant, sensation ahurissante qui me faisait sortir hors de moi, qui troublait mes réflexes les plus élémentaires, me désorientait, me déséquilibrait, et me faisait perdre jusqu'à la notion exacte de ma dimension corporelle.
Extrait de Jessénier, lu par Claude Leroy. Il n'est resté que 3 survivants à cette ferme de Navarin. Parmi les 3 survivants, il y avait Blaise Sandrard, Gisèle Bienne.
Il écrit dans la main coupée. Truc, machin, chose, tous crevés, tous tués, tous écrabouillés, tous pulvérisés, tous réduits à néant et pour rien. Mais on chantait à la Légion.
Et vous vous demandez si les hommes qui ont laissé leur peau à la ferme de Navarin savaient que c'était leur dernière heure.
Ils pensent que la plupart des hommes avait le pressentiment de leur mort quelques jours avant.
Mais lui-même ne l'avait pas. Il savait qu'il allait, puisque on sait qu'il a vu son bras disparaître en rêve, mais il avait, lui, le pressentiment qu'il survivrait à cette épreuve-là.
Oh, je ne pense pas qu'il ait eu... C'est difficile à dire, parce que, vous savez, dans L'homme foudroyé, il commence déjà par la guerre, dans la plaine de Roi, une nuit où il a très peur, et... Vous parliez hier avec Claude Leroy qu'il était drogué à l'encre d'imprimerie. Les livres, la lecture était une drogue. Et là, il dit qu'il a peur. Et que la peur est une drogue qui ne l'a jamais quitté pendant la guerre. Donc, est-ce que la peur peut laisser la place à un pressentiment pareil? Je ne sais pas. Beaucoup avaient le pressentiment de leur mort et effectivement, la mort se réalisait.
Alors, ils étaient venus, ces hommes, des quatre coins du monde, des cinq coins, écrivez-vous,
oui, comme il dit.
Des cinq coins du monde. Alors, il y avait, par exemple, Van Less.
Oui. Alors, Van Less, il est mort à la ferme de Navarin, d'une façon foudroyante. Alors, l'homme foudroyé, c'est bien sûr Sandra, mais c'est aussi Van Less, par exemple. Un obus tombé sur lui, l'a propulsé dans les airs. On a entendu un long cri, et puis de Van Less, il n'est rien resté. Sinon, dit-il, un pantalon vide et rouge de sang. Il n'y a donc pas eu de mort enterrée. Et si vous vous souvenez, quand on a célébré à Craonne pour la première fois dans l'histoire avec Lionel Jospin le 90e anniversaire de la guerre, il a commencé son discours en évoquant l'homme foudroyé de Sandrard et en particulier le sort de Van Less.
Mmh. Mais il aurait pu aussi évoquer le tapissier de l'Élysée, Prune, celui qui chantait pendant la bagarre, ou alors Savot, le gitan, celui qui a déserté quand il était dans la Somme, ou encore Lang. Alors Lang, lui, c'était le plus bel homme de la compagnie.
Alors le luxembourgeois Lang était très beau, avec un air mélancolique, irrésistible, une moustache magnifique qui plaisait aux femmes. Elles succombaient toutes. Alors, et vous savez, il y avait bien sûr les moments très durs à la guerre, mais il y avait aussi la vie. Et Lang était très occupé par sa correspondance. Plusieurs centaines de femmes, paraît-il, lui écrivaient. Alors, il envoyait sa photo à chacune, si bien que Sandrard s'amusait à le prendre en photo, nez à nez, avec un Maccabée Boche qui portait le casque à pointe. Mmh. Alors, il s'amusait et il est mort d'une étrange façon. Un obus tombe sur sa voiture, qui est tirée par un cheval, et on retrouve sa belle moustache sur la devanture du coiffeur.
Le monoclard, lui, c'est l'aristocrate polonais qui ressemblait, dit-on, à Max Jacob. Il se parfumait, il se manucurait, il faisait la guerre avec des souliers vernis.
Oui, ouais. Et au Nouvel An, il offrait des écharpes soyeuses aux gars de la compagnie et disait, bon, écoutez, on n'est pas rien que des soldats et bon, bah, pour mourir, mourons en beauté et rions, quoi. Oui, c'est vrai que, enfin, Sandra n'avait pas une très grande sympathie pour lui. Mais c'était un personnage, il y avait des personnages, vraiment. Ouais. Bon, lui, c'était un intellectuel, il y avait de grands artisans. Bon, le tapissier d'Élysée, ou il y a Bykov, le russe, un ancien séminariste.
Alors qui lui, n'est pas mort.
Non. Il n'est pas mort. Il a été pris en photo par Sandrard quand il était au Bois de la Vache. Il se camouflait dans un arbre. C'était un tireur d'élite qui, dès qu'il voyait un Allemand, le descendait. Mais à son tour, il a été visé. Et il a perdu un œil. Mmh. Il a eu une mort tragique à Paris parce que il allait très mal. Il a perdu l'autre œil et puis il s'est suicidé.
Mais 10 ans après, quand même, il a retrouvé...
Garnierot.
Ah, c'est pas le même.
Alors, Garnierot, lui, dit Chaudepisse, parce qu'ils ont tous des surnoms. Garnierot, c'est très intéressant, parce que Sandrard ne parle jamais du moment de la blessure. Sauf dans le chapitre du Lys rouge, mais c'est un symbole. Et Garnierot, il revient 3 fois, par contre, sur l'offensive de la crête de Vimy, en mars, ou qu'il aurait faite, il ne l'a pas faite, on le sait. Mais il y est, parce que là, les légionnaires ont percé le front, mais l'état-major était tellement nul qu'il n'a pas réussi à saisir l'occasion. Et là, il y a Garnierot. Garnierot qui vit des aventures à la Rabelais, qu'il aimait beaucoup, Sandra. Donc, il va dans les caves des Allemands, prendre du vin, le voici dans un tonneau, et voici que, voilà, un obus lui retire le cuir chevelu, et Sandra le lui remet sur la tête, il est laissé comme mort. Et 10 ans après, Sandrard, boulevard des Batignolles, voit passer une carriole noire tirée par un cheval blanc et reconnaît l'homme. Et Garnierot dit « Caporal, caporal, ce sont des retrouvailles incroyables, bouleversantes. Ils vont aller chez Garnierot, ils vont manger le pot-au-feu, ils vont boire, ils vont raconter tout ça. » Et Garnierot a perdu une jambe dans la bataille. mais a survécu grâce à Sandrard qui lui aurait remis le scalp en place. Voilà, vous voyez, c'est donc là, on est vraiment dans du Rabelais presque. On est, mais c'est de l'amitié. C'est vraiment. Alors, il y a aussi les ce qu'il appelle les phénomènes. Par exemple, Bouffetou, qui faisait des jouait dans les cirques. Enfin, bon, Bouffetou, lui. Il a, comme tous ces hommes, besoin de boire. Il n'y a pas d'eau. On boit du pinard, on boit de l'agnole. Alors, ça le dépendait contre 1 litre ou 2 litres ou 3 litres de pinard. Il était capable de nous avaler plusieurs paires de lacets, quelques dizaines de limaces crues, ou bien un rat ou une taupe crevée, etc., ou broyer du verre. Enfin, voilà, quoi. C'est... Et puis, il y a quand même Rossi. J'ai une grande amitié pour le Calabrais aussi. C'était un grand costaud qui montait des tentes de cirque et qui, en fait, était un grand froussard. Et il se perdait dans les tranchées et dès qu'il entendait le canon, il s'évanouissait. Et il ne pensait qu'à lire le courrier de sa femme en mangeant. Et il est mort en se vidant dans sa gamelle.
Alors là, évidemment, on regarde les combats du côté français,
oui.
mais il y a aussi des victimes du côté allemand, évidemment. Et Sandrard a cette idée, par exemple, de piéger un gramophone et d'aller le déposer du côté allemand. Et sur le coup de minuit, le gramophone se met en route et les Allemands viennent voir ce qui se passe et le gramophone explose. On ne peut pas ne pas penser que ce genre de choses reste à jamais dans la mémoire de la personne qui est à l'initiative, évidemment, d'une action comme celle-là. Comment est-ce que Sandrard a pu vivre ? Alors évidemment, c'est la guerre, hein, mais comment a-t-il vécu après avoir tué ? D'ailleurs, il a écrit ce livre qui s'appelle « J'ai tué ».
Oui, c'est la nuit de Noël, ça se passe dans la Somme. En effet, oui, c'est un bel épisode, enfin si on peut dire, mais c'est quand même important, c'est très impressionnant. Sandrard, il publie un texte qu'il écrit, qui part en 18, « J'ai tué », illustré par Fernand Léger, son copain. Sandrard, il n'entretiendra pas la légende du héros.
Il est dégoûté finalement par cette image du héros.
Ah ben, il dit dans La main coupée que la guerre est une saloperie, que la guerre est une ignominie, que la guerre c'est la misère des hommes et qu'il en est. Mmh. Et oui, il n'y croit. Et il ne comprend pas comment tant d'hommes vont continuer à croire à la légende alors qu'ils ont vécu tout autre chose. Je pense qu'il est écœuré, profondément écœuré. Et son texte « J'ai tué », il est vraiment fort. Ce n'est pas du tout le réalisme qu'aurait pu dénoncer le surréalisme à son sujet. C'est vraiment, il montre comment toute l'industrialisation d'époque, tous les progrès techniques ont fait que finalement, au moment de l'offensive, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remis à certains un couteau de boucher, un couteau de nettoyeur de tranchées.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Gisèle Bienne, vous êtes retournée à cet endroit, la ferme de Navarin. On y a construit depuis un monument. Alors, la première chose, c'est que vous avez eu du mal à la trouver finalement, cette ferme de Navarin. Comment ça s'est passé,
oui, c'est
votre
pour
voyage
ça que j'effectue un retour sur les lieux dans les fous, dans la mansarde.
Donc votre dernier livre.
Oui, je le dois à Yves Gibault, dont le père était un inconnu, un soldat inconnu de cette guerre.
Donc l'écrivain Yves Gibault.
Oui, Yves Gibault qui a écrit « Allons enfants »,« Mourir idiot », que j'aimais bien, et qui était hanté par la Première Guerre. Nous mangeons un jour ensemble et il me dit « Vous êtes déjà allé à la ferme de Navarin ?» Et je n'ai pas osé répondre. Il me dit « Si vous y allez, vous verrez la pancarte ». Et il est mort et j'y suis allée le lendemain de sa mort pour honorer sa mort. Donc j'ai vu les fermes reconstruites, la ferme des Marquises, la ferme de Constantine, la ferme de Moscou. Je cherche. Et je vois une pancarte sur l'accotement, je m'arrête, je croyais retrouver une ferme reconstruite aussi. Et je vois sur la pancarte l'inscription « Ici fut la ferme de Navarin ». Ici fut. Et ça m'a... Je crois que tout est parti de là.
Et en 1924, on a érigé sur le territoire de ce qui fut la ferme de Navarin, un monument ossuaire dans lequel sont entreposés les restes de 10 000 combattants.
Et il y a une sculpture qui domine, hein, de Real del Sarte. Ça se trouve entre Soin-Pertelé-Hurlu et Sompitahur, sur la départementale. 977, c'est un monument des plus guerriers qui soit, très impressionnant. Trois soldats qui partent à l'assaut dans le ciel, parce qu'ils sont vraiment dans le ciel.
Au-dessus d'une grande pyramide.
Ah oui, vraiment. Où il y a dessous une crypte et où le général Gros est enterré, près de ses hommes, de ses braves, n'est-ce pas? Et un soldat tient une grenade, l'autre un fusil, l'autre tire une mitrailleuse. Et c'est assez terrifiant comme... Alors, et ça domine la plaine, hein, cette plaine où vous voyez les tracteurs qui retournent la terre, où vous voyez le blé pousser. Et ce contraste, et, je ne sais pas, quand on va là-bas, c'est l'éternelle émotion. Entre la vie et la mort, vous êtes tout le temps entre les deux. Mmh.
Alors, cette sculpture, ces trois personnages, on y retrouve le général... Je crois.
Il a perdu un bras aux Dardanelles.
C'est ça. Le frère du sculpteur. Et puis Quentin Roosevelt, donc le fils de Theodore Roosevelt.
Il a été abattu au chemin des Dames.
Oui.
Et, ah oui, tout est codé, hein, dans voilà, les monuments pareils. Et là, il y a énormément de disparus qui sont les disparus de la grande offensive.
Oui. Et que sont devenus, est-ce qu'on le sait, ceux qui habitaient dans cette ferme de Navarin, dans ces fermes qui ont été le lieu de ces atrocités?
Vous savez que je le dois à une nuit d'insomnie où je mets la radio, enfin je savais un peu quand même, et je tombe sur France Culture qui rediffuse une émission sur les pays, les villages détruits de Hurlu, Tahur, Pertelé-Hurlu, le Ménil-Hurlu. C'est complètement extraordinaire, les voix dans la nuit. La radio. Ces gens, on les a expropriés. L'armée en a profité pour faire un grand camp militaire. Et ils ont dû soit aller se reloger dans les villages voisins, soit partir dans les départements voisins, c'est tout près des Ardennes, soit dans l'Aube. Mais en tout cas, ils n'ont pas retrouvé leur village. Et les gens à la périphérie qui habitaient dans ces villages, qui sont restés pendant longtemps, ils sont retournés plus ou moins en cachette, ont essayé de prendre la pierre d'une auge, d'une margelle ou une branche d'arbre fruitier qu'ils reconnaissaient, qu'ils greffaient sur leurs arbres fruitiers. Enfin, je ne sais pas vous dire, perpétuer la mémoire d'une façon ou d'une autre des lieux.
Ils arrivaient à retrouver les endroits où étaient les maisons avec les arbres qui restaient, les lilas.
Les lilas, les primes verts, les rosiers, mêlés à la végétation d'un temps arrêté, parce que là, c'est la végétation de l'époque, d'avant la guerre de 14. C'est vraiment un monde. Oh, c'est bouleversant.
Et Sandrard, lui, écrira sur la guerre, alors, à plusieurs reprises, La main coupée, évidemment, mais aussi un livre qui... n'a jamais été publié, soi-disant, il aurait été brûlé par Sandrard. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ce livre, finalement, qui racontait à la fois l'histoire de la guerre et sa vie à Blaise Sandrard?
Alors, ce que je sais, c'est qu'il a tout de suite voulu écrire sur sa guerre au lendemain de sa blessure, en 16, et il n'y arrivait pas, et il dictait ses souvenirs. Et ça s'est d'abord appelé « Souvenir d'un amputé ». Puis... il est revenu à la charge, si je puis dire, en 18. Et là, il a trouvé son titre, La main coupée, avec plusieurs sous-titres. Vous savez comment il était, il préparait. Et plusieurs pages plus ou moins écrites. Il s'agissait de parler de l'offensive de Champagne, et puis l'hôpital, et puis etc. Parce que l'hôpital, quand même, à Châlons, ça a été quelque chose, après la rééducation de la main. Et il a abandonné. Puis, il y a eu « J'ai tué ». Puis, vie et mort du soldat inconnu, un truc qu'on ne sait pas trop.
Mais donc, vous ne pensez pas qu'il y a, dans ce livre-là, qui a été abandonné, des choses qu'il n'aurait jamais dites ailleurs?
C'est possible. Avec lui, il a écrit, vous l'avez signalé tout à l'heure, « J'ai saigné », c'est quand même très très fort. Là, c'est sur l'après-blessure. et nous apprenons énormément de choses.
Un grand merci à vous, Gisèle Bienne. Je rappelle que votre dernier roman, dans lequel figure le personnage de Sandra, a paru cette année aux éditions Actes Sud. Il s'intitule « Les fous dans la mansarde ». Et puis, il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu dire aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le faire. Je renvoie donc nos auditeurs sur votre livre « La ferme de Navarin ». C'est dans la collection « L'un et l'autre » chez Gallimard, dans une publication qui date de 2008. Demain, nous serons en compagnie de Myriam Boucharin et de Philippe Forest pour le dernier épisode de notre semaine consacrée à Sandra. On parlera journalisme, on parlera aussi de son ouvrage « Le lotissement du ciel », mais tout de suite de la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Du cloître à la place publique. La langue des trouvères, rassemblée et traduite par Jacques Darras, donne une version musclée de l'amour courtois. On y trouve aussi des congés. Ça, c'est une invention littéraire des poètes arageois. Adam de la Halle, le plus célèbre. Jean Baudel, atteint par la lèpre et qui doit s'exclure et quitter sa ville. Baud Fastoul, même motif. Hélinan de Froimont, etc. Le congé d'Adam de la Halle est daté de 1276 ou 77, c'est un adieu à la vie sociale pour reprendre, dit-il, des études de théologie. Écoutez ça. « De quelque manière dont mon temps j'ai usé, ma conscience m'a tenu accusé, toujours me conseillant le meilleur, me l'a dit tant de fois détourné, que tout plaisir j'ai refusé pour tendre vers l'honneur. » Or le temps dont j'ai dépensé la fleur, le temps perdu, hélas, au plaisir mondain qui m'amusait, je le pleure, forçant cela à le Seigneur dont chaque amant doit excuser mon erreur. Arras, Arras, ville de procès, ville de haine, de calomnie, qui de noblesse coutume avait, on va 10 ans qu'on vous réforme, mais si Dieu n'y fait le bien entrer, je ne vois nul qui vous réconcilie. On aime trop chez vous la monnaie croix pile, chacun fut berthe en cette ville, quand il y avait richesse au mets, adieu plusieurs fois 100 et 1000, je vais ailleurs ouïr l'évangile, ici sauf mentir, rien ne se fait. Alors ça, on va vérifier ça, que Adam de la Halle, il va ouïr l'évangile ailleurs, qui nous raconte pas d'histoire. S'il est juste qu'Arras soit critiqué, pourtant y a-t-il bonnes gens de qui je veux prendre congé, qu'on décrit, qu'en maintes grandes fêtes ils ont donné, faisant fréquemment beaux banquets dont l'usage a bien décliné, car on a si rafauché qu'on leur a retranché le pied sur quoi se fondait leur déduit, ceux-là ont commis mortels péchés qui tant sur les eaux ont tiré que les viviers sont asséchés. Adam de la Halle s'en va parce qu'il n'y a plus assez de fêtes chez lui à Arras. Bon, enfin, j'en sais rien. Adieu, amour, très douce vie, la plus joyeuse, la plus jolie qui puisse être hors le paradis. Vous m'avez donné tant de bonheur. Si vous me tâtez de clergy, de l'étude et du clergé, je l'ai par vous déjà reprise, cette étude, car m'avait donné volonté de racheter honneur et prix que par vous perdu je n'ai mis. Mais vous servant, j'ai tout appris, tant j'étais nu auparavant, dépris de toute trace de courtoisie. Très belle, très douce, très chère amie, je ne pourrai faire belle chère, car plus chagrin de vous m'en vais, que de rien que je laisse derrière. De mon cœur serait la trésorière, mon corps s'en ira d'autre part, quérir savoir et art.
Merci Jacques Bonafé. Vous lisiez des poèmes écrits au XIIIe siècle par Adam de la Halle, adaptés et traduits par Jacques Darras.